Ouvrons nos Bibles à Romains 14. Romains chapitre 14. Alors comme vous le savez, nous avons commencé dernièrement, enfin la semaine dernière, une mini-série dans Romains 14, dans la grande série de toute l'épître de Romains que nous parcourons depuis déjà pas mal de temps. Mais la semaine dernière, on a commencé ce que j'ai appelé, le message que j'ai intitulé « Les chrétiens forts et les chrétiens faibles ». Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie, « Les chrétiens forts et les chrétiens faibles ». Et nous allons commencer au verset 13 du chapitre 14 et aller jusqu'au chapitre 15, le verset 3. Donc je vais lire ces versets avant de les examiner. Merci. Romains 14 à partir du verset 13. Paul écrit. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction et péché. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Et bien que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors, je crois que c'est très important qu'on révise un petit peu, pour ceux qui étaient là, mais peut-être pour ceux qui n'étaient pas là aussi, parce qu'on arrive vraiment au milieu d'une section, et donc je pense que ce serait utile de réviser un petit peu ce qui se passe ici dans Romains chapitre 14. Paul, dans Romains 14, met le doigt sur un problème qui existait dans l'église à Rome, et qui existe dans quasiment toutes les églises locales depuis, à un moment donné ou à un autre, la désunion et la division. Dimanche passé, nous avons vu qu'il y a globalement trois types de divisions dans les églises, que j'ai appelé la désunion, la division morale, deuxièmement la désunion doctrinale, et troisièmement ce qu'on pourrait appeler la désunion d'opinion. Et justement, c'est cette désunion d'opinion qui peut diviser une église aussi, une chose qui est liée aux différences de préférence, des différences entre chrétiens qui ne sont ni commandés ni interdits dans les Écritures. Ce sont des domaines de préférence personnelle, des traditions qui nous viennent d'habitude de notre arrière-plan religieux ou culturel et qui peuvent devenir extrêmement importants pour nous et créer des conflits dans les églises. Et justement, lorsque ces préférences personnelles sont imposées sur d'autres personnes dans l'église comme un signe de spiritualité, alors arrive confusion, tension, désunion, clash, division, etc. Pas toujours évident. Alors j'ai donné toutes sortes d'exemples. Laissez-moi vous expliquer brièvement comment ça se passe, d'accord? Il y a des choses dans la Bible qui sont explicitement permises ou interdites. C'est explicite, c'est clair et c'est net. Comme quoi par exemple? Voici les choses bien que la Bible veut qu'on fasse. L'évangélisation, par exemple. La prière. la lecture et l'étude de la Bible, être rempli du Saint-Esprit, tout ce qui honore Dieu. Voilà des choses qui sont claires dans la Bible. Il y a des choses que la Bible condamne de manière claire aussi, sans aucun doute, sans aucun problème. La débauche sexuelle, l'adultère, le vol, l'idolâtrie, l'ivrognerie, la cupidité, les querelles, les jalousies, les mauvaises pensées, le meurtre aussi. Ce sont des choses claires et nettes. Mais le problème, c'est qu'il y a toute une autre catégorie de choses qui ne sont pas explicitement mentionnées dans la Bible comme autorisées ou interdites. C'est ce que j'appelle les choses neutres, les choses qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais grises. Ce sont les activités ou les comportements neutres. Alors j'ai donné pas mal d'exemples le dimanche dernier, vous rappelez. La musique dans l'église, quel style ? La batterie dans l'église, oui ou non ? Le genre de vêtements que les chrétiens ont le droit ou ne pas le droit de porter. On a parlé de ces choses en détail le dimanche dernier, je ne fais que les réviser, les donner les généralités. Quels livres les chrétiens ont-ils le droit de lire ou pas ? Et on a donné l'exemple de Harry Potter. Oui ou non ? L'alcool. Les chrétiens ont-ils le droit de boire de l'alcool ? Et si oui, à quel degré ? On pourrait même dire. Est-ce que les chrétiens ont le droit de regarder la télévision ? D'écouter la radio, vous dites, ouais, ça c'est bête, non, mais à l'époque, la radio, c'était, quand la radio est sortie, c'était un problème pour les chrétiens, certains. Le cinéma, fumer, un chrétien a-t-il le droit de fumer ? Danser, un chrétien a le droit de danser. Jouer aux cartes, utiliser Internet, jouer à des jeux vidéo violents. Voici le type de problème que j'appelle des catégories neutres. Et qui suscite l'émotion et la passion de chrétiens, souvent à cause de notre culture évangélique du passé. Bienvenue, mes amis, au problème de Romains 14. Les mêmes problèmes existaient à Rome. Il y avait dans l'Église des conflits par rapport à certains domaines de liberté. Ces chrétiens se jugeaient par rapport à leur comportement sur les sujets de préférence. Alors, dernièrement, on a catégorisé notre chapitre en 5 grandes parties. La première chose qu'on a vue, c'est le principe évoqué au verset 1. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Et là, on le voit très clairement, le problème était sur les opinions des uns et des autres, sur des choses non essentielles, ce qu'on appelle des préférences. Aussi, on voit qu'il y a deux catégories de personnes. Verset 1, les faibles, et chapitre 15, verset 1, les forts. Les faibles et les forts, deux catégories de personnes dans l'Église. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Alors, on a vu, deuxième grand point, le problème abordé. D'accord ? Le problème abordé, dans les versets 2 à 6, il y avait deux problèmes à Rome. Alors, ce n'était pas le problème des jeux vidéo, ce n'était pas le problème de fumer ou pas fumer. Pour eux, c'était le problème, premièrement, de la nourriture. La nourriture. Dans le texte parallèle, on a vu dans Corinthiens 8, nous avons vu que le problème était probablement celui des viandes sacrifiées aux idoles. Regardez verset 2, tel croit pouvoir manger le tout, un autre, il est faible, ne mange que des légumes. Donc, il y avait un problème, il y avait certains chrétiens dans l'église qui disaient, tu peux manger ce que tu veux, d'autres disaient, non, que les légumes, pas la viande. Pourquoi ? Eh bien, parce que 1 Corinthiens 8, 1 à 13, suggère que certaines viandes à l'époque et à Corinthe étaient sacrifiées aux idoles. Alors la question était-elle ok pour un chrétien de manger de la viande sacrifiée à un idole au préalable, qui était une coutume courante dans la société païenne ? Alors j'ai un exemple, je trouve, super actuel. Ni la nourriture. Nous, on a un petit restaurant préféré à Villagrand, en France, voisine, un restaurant chinois. Et quand vous rentrez dans ce restaurant chinois, vous rentrez, et là, il y a un Bouddha, avec des fruits qui sont dans un plat offert à Bouddha. D'accord ? Alors que font-ils avec ce fruit le jour après ? Peut-être qu'ils prennent le fruit offert à Bouddha, ils le coupent en morceaux, ils le mettent dans la salade de fruits. Question. Est-ce qu'un chrétien a le droit de manger cette salade de fruits parce que le fruit a été préalablement offert à Bouddha? Ça, c'est une question intéressante. C'est exactement le problème, ici, à Rome. Si quelqu'un me voyait dans le restaurant et disait « Oui, écoutez, tout le monde peut se servir, je prends la pomme, moi, un pasteur, je prends la pomme offerte à Bouddha et je la croque. » Vous réagissez comment ?« John !» Alors, vous pourriez dire « Mais il y a peut-être un démon dans cette pomme, un démon bouddhiste. » Alors, Paul dit dans 1 Corinthiens 8:4 « Pour ce qui est donc du manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Paul, il dit tout simplement, mes amis, ça n'existe pas les idoles rattachées à la nourriture. Les démons ne s'attachent pas à la nourriture. Donc il dit qu'on peut manger de la viande ou une orange ou une pomme consacrée à un démon parce que ce démon ne s'attache pas à la nourriture. C'est un mythe. Alors, le chrétien fort, c'est celui qui se dit « Moi, je veux encore offerte à Bouddha. » Mais le chrétien faible, peut-être qu'il s'est converti du bouddhisme. Lui, il est convaincu, même s'il a tort théologiquement, il est convaincu qu'il y a un problème avec ça. Et lorsqu'il me voit manger cette pomme ou te voit manger cette pomme, lui, il chute. Lui, il dit « Non, là, je ne supporte pas ça. Moi, ça me casse dans ma foi. » Et ça, c'est ce que la Bible appelle le chrétien faible. Celui qui n'a pas encore géré et compris. Et donc, il est heurté par la liberté légitime, on pourrait le dire, d'un frère chrétien. Alors, le verset de base, on le voit déjà ici, hein, dans les versets. C'est que révision encore. Hein. Accueillez celui qui est fait, verset 1, dans la foi et ne discutez pas les opinions. On va voir que Paul est en train de parler aux forts, les chrétiens qui sont forts, et leur dit attention, vous qui avez de la liberté chrétienne, ce que votre comportement peut avoir comme effet sur un frère. Donc il va diriger ce texte à nous. Le verset 3, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu les a accueillis. Le principe de base est en fait, ne vous jugez pas mutuellement, car Dieu approuve les deux, il les accueille. Si tu es fort, mange la viande, ne critique pas celui qui ne pense pas comme toi. Si tu es faible et tu ne peux pas manger cette viande, ne juge pas celui qui en mange, acceptez-vous mutuellement. Mais on va voir qu'il va diriger l'application concrète de comment gérer ce conflit au fond. Il y avait un deuxième problème dans l'Église, c'était le problème des fêtes religieuses. On le voit au verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre estime tous égaux que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Alors c'était dans le domaine d'adoration. Les faibles pensaient que les jours sacrés devaient être respectés. Il pensait qu'il y avait certains jours de la semaine plus sacrés que d'autres jours de la semaine. Et il fallait les respecter. Tandis que le fort concluait, « Mais non, tu peux adorer Dieu n'importe quel jour, c'est pas un problème. » Qui avait raison? Bon, verset 5, il dit que c'est une question de conviction. Nous avons vu la dernière fois, selon Colossiens 2, 16 à 17, que le jour du sabbat a été aboli en tant que tel, en tant que loi respectée avec la venue de Jésus-Christ. Christ est dorénavant notre sabbat. Le chrétien n'est pas obligé de garder le sabbat tel quel. C'est pour ça que les chrétiens, d'ailleurs, ont commencé à avoir leur culte le dimanche, le jour de la résurrection de Jésus. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Si vous sortez du judaïsme, toute votre vie, on vous a inculqué que le sabbat dans l'Ancien Testament est à respect en tant que chrétien. Pour vous, ça va peut-être vous prendre du temps pour vraiment comprendre cela. Alors, il y avait un conflit dans l'Église. Les païens disaient, les païens convertis, donc non-juifs disaient, on peut faire ce qu'on veut, et les juifs convertis disaient, non, il faut garder le jour du sabbat. Conflit. Dans cette relation, sa réponse au verset 6, c'est que celui qui distingue entre les jours agit comme pour le Seigneur, celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange et qui rend grâce à Dieu, celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas et il rend grâce à Dieu. C'est très intéressant, il dit, écoutez, que tu aies une conviction ou l'autre, l'important c'est ton mobile. Tu le fais pour Dieu. Et Dieu, il accepte. Lui, il veut un mobile pur. Il veut simplement que tu l'adores. Et si pour toi, ce jour est plus important que les autres, ok, c'est pas la fin du monde. Et pour toi, non, ben c'est ok, ben c'est pas la fin du monde non plus. Ne vous chamaillez pas sur ces points-là. Voilà ce qu'il a dit. Alors, la prohibition invoquée, c'était le troisième grand point qu'on a vu, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu tue ton frère. Il dit, arrêtez de vous juger les uns les autres et ne vous méprisez pas les uns les autres. Alors il donne le pourquoi expliqué, c'était le point 4, verset 10b à 12. Regardez ce qu'il dit au verset 10, mais toi pourquoi juges-tu ton frère et toi pourquoi méprises-tu ton frère puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. C'est ce qu'il dit sur ces points mineurs. L'important, c'est de savoir que nous allons tous devoir un jour répondre à Dieu. C'est lui qui juge. Moi, je n'ai pas à juger, toi, tu n'as pas à me juger, parce que finalement, c'est Dieu qui va nous juger. Et lui aura le dernier mot sur nos mobiles. Et lui rétribuera les récompenses dans 1 Corinthiens 3 vis-à-vis de nos attitudes. Alors ça va nous amener au cinquième point, le point qu'on va aborder aujourd'hui. Ok, mais John, comment faire pratiquement, concret, dans l'Église? S'il y a deux chrétiens, ils ne sont pas d'accord sur ce sujet, et ni l'un ni l'autre veut lâcher le morceau. Hein? Ça peut arriver, ça. C'est moi qui ai raison. Non, c'est moi qui ai raison. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. On fait comment? Cinquième point, la pratique adoptée. Toute la prochaine section nous explique comment appliquer cela dans l'église locale. D'accord? Comment appliquer l'unité des chrétiens forts? Et c'est ça le but, hein? L'unité en recherche. L'unité, c'est la solution aux divisions. Il veut trouver l'unité des chrétiens forts et faibles dans l'église, sachant que les deux existent et cohabitent ensemble, malgré leur divergence d'opinion sur les sujets de préférence. Alors ce texte, qu'on va voir aujourd'hui à partir du verset 13, nous explique que la seule manière de pouvoir maintenir l'unité entre les chrétiens forts et faibles dans l'Église, c'est d'appliquer 8 principes clés. On va les regarder. 8 principes, d'accord? Alors on va les regarder. Numéro 1. Il faut aspirer à une bonne théologie. Il faut aspirer à une bonne théologie. Regardez verset 14. Peut-être on commence au verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement et une occasion d'y chute. On y reviendra. Verset 14. Je sais, Paul dit, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Paul affirme un point théologique important ici. Pour toute chose qui n'est pas péché en soi, donc ces choses neutres, il dit, je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Alors c'est intéressant, Paul n'exprime pas une opinion personnelle ou une préférence personnelle ici, mais il est persuadé par Jésus-Christ de la chose suivante qu'il vient de dire. Ça veut dire qu'il l'a reçue par révélation divine de Dieu. C'est comme lorsque Pierre a eu la vision de ces animaux dans cette grande bâche, et Dieu lui a ordonné de les tuer, il a reçu une vision comme quoi tous les animaux étaient bons à manger selon acte 10. Donc, Paul a reçu cette révélation de Dieu, que rien en soi est impur. Alors, qu'est-ce qu'il vient de dire? La pomme dans mon restaurant chinois, elle n'est pas impure. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Elle est OK. En vrai. Regardez verset 20. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures. Toutes choses sont pures. Ça veut dire quoi? Toutes choses sont pures. C'est intéressant, Jésus dit dans Matthieu 15. Ne comprenez-vous pas, verset 17, que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ça qui souille l'homme. Jésus dit, c'est pas la nourriture qui rentre en moi qui souille l'homme, non, c'est le cœur souillé qui souille l'homme, c'est ce qui sort de l'homme. L'homme est déjà souillé, donc c'est pas un aliment qui peut souiller un homme. Donc, pour pouvoir être unis dans nos différences, il est en premier important d'examiner la pensée de Dieu et les Écritures pour voir vraiment ce qui est dit sur tel ou tel sujet. Voyez-vous, parfois les conflits d'opinions surgissent parce que la Bible a été mal consultée. Il faut se poser la question, y a-t-il des principes clairs, bibliques, sur certains sujets de différence ? Pour la nourriture et les jours fériés, qu'était le problème à Rome ? Ben, on l'a vu. Est-ce que la Bible parlait de ces sujets ? Oui. La Bible est claire sur ces sujets. Toute nourriture est OK et aucun jour n'est plus important en soi qu'un autre. Prenons l'exemple nord-américain, européen, du vin. Parce que là-bas, vous savez, le vin, dans beaucoup de milieux, est absolument interdit. Ici, aucun problème, d'accord ? Même la Sainte-Seine, c'est du vin. Alors, sur ce sujet, la première chose qu'il faut faire, c'est de consulter les Écritures et se poser la question, est-ce que la Bible interdit vraiment l'alcool ? Difficile à conclure cela lorsque Jésus a créé un très bon vin, parce que celui dans Jean 2 qui a pris le vin a dit « mais il est excellent ». Difficile à imaginer que c'est autre chose que du bon vin. Alors par contre, la Bible interdit clairement l'ivresse, ça on est d'accord. Éphésiens 5, 18, « ne vous enivrez pas de vin ». L'ivresse est différente que simplement consommation de vin. Alors il y a peut-être des bonnes raisons de s'abstenir de l'alcool, et ça on les verra à la suite de ce message, mais on peut quand même conclure que la Bible n'interdit pas en soi le vin. Donc ça c'est une vérité théologique importante, bien qu'il y a beaucoup de dangers liés au vin, ça c'est sûr. Donc ce premier point est simple, pour une bonne théologie, nous devons vraiment prendre le temps, si quelqu'un vous n'est pas d'accord sur un sujet, eh bien on perd la joie dans le désir de comprendre. Venez ensemble, consultez d'autres personnes, essayez de comprendre vraiment s'il y a des principes dans la Bible par rapport à tel et tel sujet sur lequel vous êtes en différence. Deuxième manière de créer cette paix entre ces deux camps, c'est de cultiver une bonne attitude. Écoutez, mes amis, moi je crois que c'est la clé. La clé, c'est l'attitude. Si l'attitude est bonne, on peut parler de n'importe quoi. Si l'attitude n'est pas bonne, c'est vraiment compliqué. Alors, ce que j'ai fait ici, j'ai trouvé très intéressant, j'ai aligné toutes les exhortations que Paul fait aux chrétiens forts, attention, hein, aux chrétiens forts, aux chrétiens qui sont libres, parce qu'ils comprennent leur liberté chrétienne, j'ai aligné les exhortations que Paul fait aux chrétiens forts dans ce texte vis-à-vis de leur attitude envers les chrétiens faibles. Voilà, écoutez, alors maintenant je vous parle à vous, chrétiens forts. Je ne vais pas vous demander de lever la main, d'accord ? Si tu te considères un chrétien fort, c'est à toi que Paul parle. Alors, écoute super bien. Numéro 1, il y en a un paquet, d'accord ? Numéro 1. Ne juge pas ton frère. Verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Le verset 13 renvoie au verset juste avant qui parle du tribunal de Dieu, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Verset 12, et chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Puisque c'est Dieu qui va nous juger, nous ne devons pas juger notre frère. Dieu s'en occupera. Juger un autre pour un comportement de liberté chrétienne est arrogant et vide d'amour. Et le mot « juge » ici parle d'une condamnation. Non, nous ne devons pas juger. Écoutez bien ce que je veux dire. Nous ne devons pas juger les autres. Nous devons aider les autres. Très fort. Nous devons chercher à les aider. On ne les condamne pas d'emblée. On est patient et on aide à comprendre bibliquement la chose. Si on peut. La première chose, on ne juge pas son frère. Deux, ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton frère. Verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Enfin, attention, alors, c'est vrai que le jugement peut aller dans tous sens aussi. Hein. Le faible peut juger le fort, lui dire tu es libre, tu es beaucoup trop libre. Moi, je ne peux pas faire ce que toi tu fais, je suis plus sain que toi. Ça peut être une attitude aussi dévastatrice. Hein? Le faible devient légaliste et juge le fort. Donc le jugement peut aller des deux côtés. Faire très attention par rapport à ça. Deux, Ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton frère. Verset 13, c'est ce qu'il dit. Mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement. Alors, c'est quoi une pierre d'achoppement? Vous êtes sur une route, un petit chemin, tout d'un coup, il y a une pierre que vous ne voyez pas. Clac! Vous trébuchez sur cette pierre. Si vous trébuchez trop fortement, vous risquez de ne pas pouvoir continuer votre chemin. Un chrétien qui exprime sa liberté sans retenue peut devenir une pierre d'achoppement pour son frère. Si je mange un bout de viande ayant été offert en préalable à une idole, moi ça ne pose pas de problème. Moi je me dis, il n'y a pas d'idole dans la viande. C'est ok. J'aime les beefsteaks. Et ils sont moins chers au temple. Mais un chrétien qui voit manger un beefsteak pris au temple, qui n'a pas cette conviction, risque de dire, John, tu compromets ta foi. John, tu donnes accès à des démons dans ta vie. Peut-être que John, c'est un faux chrétien, finalement. Est-ce qu'il est vraiment sauvé? Moi, je ne peux pas aller dans son église. Alors, vous dites, ça va un peu loin. Vous savez, peut-être pas. Ça peut vraiment être comme ça, des fois. Donc, je dois faire attention de ne pas être une pierre d'achoppement pour quelqu'un dans ma liberté. 3. Ne sois pas une occasion de chute pour ton frère, encore le verset 13. Ou une occasion de chute, dit-il à la fin. Pareil, la pierre d'achoppement devient l'objet de chute. C'est un synonyme. Donc c'est intéressant que ma liberté peut faire chuter quelqu'un. Il faut y réfléchir. 4. N'attriste pas ton frère, verset 15 au début. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, ma liberté peut attrister quelqu'un, un frère. Le mot pour attrister parle de causer une souffrance, ou une détresse, ou un chagrin. Il est dommage lorsqu'un chrétien est attristé à cause du comportement d'un autre chrétien, surtout pour une chose qui ne sont pas péchés en soi. Un chrétien peut être attristé ou déconcerté lorsqu'il voit un autre chrétien faire quelque chose que lui considère comme étant un péché. C'est vrai, quand tu penses. Si pour un bout de viande, que j'ai vraiment envie de manger, ça fait chuter un frère, qu'est-ce qui est le plus important? Le bout de viande ou le frère? C'est logique, quand on y pense. Le problème, c'est que vous et moi, on aime beaucoup les filets mignons. Ça me trompe pas encore. Mais on y tient à ce filet mignon. Ouais, mais il dit, attends là, qu'est-ce qui est le plus important ici? 5. Ne marche pas sans amour pour ton frère. Verset 15 encore. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Donc, si je ne marche pas selon l'amour, je suis égoïste et je ne pense pas à aimer mon frère. On dit que si j'attriste mon frère par mon choix de liberté, alors je révèle un manque d'amour à son égard. Je ne marche plus vis-à-vis de l'amour. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. 6. Ne cause pas la perte de ton frère. Verset 15. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus dans l'amour et ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Alors, personne ne veut pas dire que tu contribues à la perte du salut du croyant en question, parce qu'Éphésiens 1 montre clairement qu'il est impossible de perdre son salut qui est d'office éternel. Mais ma liberté peut nuire gravement à la croissance spirituelle de mon frère. Matthieu 18 donne la même idée. Dans Matthieu 18, 14, de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il ne se perde un seul de ses petits. Mais le verset 3 et 6 montrent clairement que Jésus a des chrétiens en vue ici. Verset 3, je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez comme et vous ne devenez comme ces petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il parle à des chrétiens ici. Verset 6, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, là c'est clair, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on la jette au fond de la mer. Donc, cette perte décrite dans Romains 14, 15, c'est une chute spirituelle, une perte de santé spirituelle. Je ne dois rien faire dans ma liberté chrétienne qui causerait une chute spirituelle d'un frère ou une sœur en Christ. 7. On n'a pas encore fini la liste. 7. Ne deviens pas un sujet de calomnie pour ton frère. Verset 16. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Alors attention, Paul n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas. Comment dire ? Il n'est pas contre la mise en pratique de notre liberté chrétienne. C'est un droit. Nous avons le droit de la liberté chrétienne. D'accord ? Mais, lorsque ce droit devient un sujet de calomnie, il faut arrêter. Alors si je suis libre dans quelque chose, non, je suis libre. Et les gens le voient, et ils commencent à avoir un problème, et ça commence à se discuter. Et ça devient un problème. Tout le monde sait. Non, c'est un problème. C'est libre, mais c'est un problème. Ça devient un sujet de calomnie. Si ma liberté fait que les gens vont parler de moi et pointer le doigt vis-à-vis de ma liberté légitime, alors la sagesse dicte de la laisser tomber. Ça crée des problèmes pour rien. Hein, ce qui est un problème. Huit. Ne contribue pas à la guerre dans l'Église ni à la destruction mutuelle. Verset 19, regardez. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Alors moi, j'ai pris l'opposé. L'opposé de la paix, c'est la guerre. L'opposé de l'édification mutuelle, c'est la destruction mutuelle. Donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Le contraire, non. Personne ne sera bénéficiaire. C'est mon droit d'être libre. Si ça crée une immense conflit dans l'Église, ça sert à quoi ? 9. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu, verset 20. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Si un aliment que je mange scandalise mon frère et lui fait du mal spirituel, alors en quelque sorte, je détruis l'œuvre de Dieu. C'est un mal. Et ici, Paul utilise un impératif présent. Apparemment, il y avait des choses dans l'Église et apparemment, c'est le problème de la viande et des jours, un impératif présent, il leur dit, vous devez arrêter. Ça crée trop de problèmes dans l'Église. Arrêtez cette liberté. 10. Ne deviens pas un scandale pour ton frère. Verset 21. Il est bien de ne pas manger de viande et de boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale, voilà le mot qu'on n'avait pas encore vu, ou de faiblesse, de scandale. Je l'ai lu tout à l'heure, je vais relire. Jésus a vraiment parlé très très fortement là-dessus. Et ça, vous voyez, pensez à vous-même, pensons à nous, personnellement. Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais dans ma vie ? Alors, dans le domaine de liberté chrétienne, mais peut-être c'est dans le domaine clair net, moral noir, noir et blanc. Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais dans ma vie qui peut-être est un scandale pour quelqu'un d'autre ? Quelqu'un me regarde et me dit, mais ça ne colle pas. Jésus dit dans Matthieu 18, 6, mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit en moi, écoutez ce qu'il dit, c'est incroyable. Il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. C'est ce qu'il est en train de dire, Jésus. Exactement ce qu'il dit. Si par ton comportement tu scandalises un autre chrétien, mieux vaut que tu sois mort. Mieux vaut que tu sois mort que de scandaliser un chrétien par ton comportement. Ça ne peut pas être plus radical. Moi, je crois que Jésus aime beaucoup l'Église. Il a donné sa vie pour l'Église. Il s'est sacrifié pour l'Église. Il a tout donné pour l'Église. Il ne veut pas que l'Église se divise par ce genre de choses. Donc, je résume tout ça. Prenons les deux cas. Y a-t-il un péché clair et né dans ta vie dont tu refuses de te repentir qui pourrait être un scandale pour un frère ou une sœur qui te regarde ? Un truc net et clair. Est-ce que ton comportement pourrait influencer au péché quelqu'un en voyant ton comportement ? Si oui, tu deviens un scandale pour eux. C'est dangereux. Y a-t-il un domaine de liberté chrétienne dans ta vie, un domaine légitime ? Tu dis oui, mais là c'est mon droit. La Bible n'est pas claire sur ce point. Ok ? Peut-être c'est pas un problème. Mais y aurait-il possiblement un problème de liberté dans ta vie qui est un une pierre d'achoppement réelle dans la vie d'un chrétien fervent? Si oui, discutez, parlez, Bible en main, renseignez-vous, étudiez ensemble, demandez l'avis de l'autre, essayez de comprendre. Mais si le chrétien faible n'est toujours pas convaincu de ton droit de liberté, même si bibliquement tu nous donnes toutes les preuves que tu as raison, ouais, mais tu sais, moi j'ai de la peine, quoi, moi je suis jeune, moi je... C'est non, moi j'y arrive pas, quoi. Non, vraiment, là, ça me pose un vrai problème, frère, sœur. Qu'est-ce que tu devrais faire? Parce que tu l'aimes. Ok. Laisse. Mais c'est dur! Ben ouais, c'est dur. Lorsque Jésus est venu sur terre, c'était dur. Est-ce qu'on n'a pas pris notre croix et suivre Jésus? Donc, on en est où? La pratique adoptée dans l'Église. 1. Il faut aspirer à une bonne théologie. 2. Il faut cultiver une bonne attitude. Ça, c'était tous les sous-points. 3. Regardez. Il faut réviser sa juste motivation. Comment maintenir la paix dans l'Église lorsque nous avons des différences, surtout sur le côté de la liberté chrétienne? Verset 17. Regardez. Verset 16, que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, vous m'avez donné raison. Regardez, c'est trop beau. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Vous savez ce qu'il est en train de nous dire, ce verset? Oh, les chrétiens, évalue bien les priorités ici. Quelles sont les choses les plus importantes, finalement, en tant que chrétien? Et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu sur terre, ce que nous vivons aujourd'hui à travers notre vie d'église, n'est pas en première représenté par ce que nous mangeons et ce que nous buvons. Moi, je ne sais pas quelle est notre réputation à Genève, l'EIG. J'espère. Alors, je vais dire un truc assez intéressant. J'espère qu'on n'est pas célèbre pour le super buffet canadien. Ils sont super. Enfin, par moi, enfin, un super repas canadien. Je ne pense pas que c'est ça. On n'est pas connu pour ça. J'espère pas, du moins. Et il dit, le royaume de Dieu n'est pas en premier ce que nous mangeons ou nous buvons. Alors nous, on offre du super café, parce qu'on a des super cafetières le dimanche matin, mais j'espère que ce n'est pas ça qui fait venir les gens ici. C'est sympa d'avoir un café, mais ce n'est pas le but de l'Église. Non, qu'est-ce qui est important dans l'Église? Quelles sont les attitudes que nous communiquons depuis notre Église, depuis nos vies? Est-ce que les conflits de nourriture ou des conflits d'autres choses dans l'Église, c'est ça? Pourquoi on est connu? Ou est-ce que c'est ce qu'il dit ici au verset 17? Nous sommes connus pour une Église de justice, de paix et de joie. Waouh! Ah, j'ai des frissons à y penser. Est-ce qu'on est connu pour ça, la justice de Dieu? Nous sommes pécheurs et Dieu, dans sa justice, punit ce péché, mais il a offert son Fils Christ pour nous pardonner. Est-ce que la croix, justement ce qu'on disait ce matin, est-ce que la croix, c'est ce qui est prêché de cette Église? Ce qui est chanté de cette Église, cette justice de Dieu qui nous donne en plus le pardon en Christ. Et le résultat, c'est quoi? C'est la paix avec Dieu, mais la paix entre nous. Est-ce que nous sommes Église qui est imbibée de paix et, regardez, de joie? Ah, moi, j'espère que quand les gens viennent pour la première fois, ils nous voient rayonner de joie, ils voient une paix entre nous. Ils disent, c'est trop génial ici, c'est tellement différent que nous. Voilà les valeurs du royaume de Dieu ici. Pas les petits conflits parce que je veux mon beefsteak ou ma pomme. Alors la question que je me pose, est-ce que je suis ici pour honorer mes droits de liberté chrétienne, même si cela crée des conflits dans l'Église, ou suis-je ici en premier pour honorer le royaume de Dieu, pour promouvoir la justice, la paix et la joie? Et nous devons chacun de nous réviser nos mobiles par rapport à ça. Quatrième chose qu'il faut faire pour maintenir l'unité, il faut désirer la divine approbation. Verset 18, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. C'est beau, je trouve. Il affirme que de renoncer à ma liberté pour le bien de mon frère est en fait un service à Christ, agréable à Dieu. Quand moi je renonce à ma liberté pour honorer quelqu'un d'autre, je sers Christ et j'honore Dieu. Ça c'est bon, non? Et le bonus, verset 18, et approuve. trouver des hommes. Comment ? Eh bien, tu seras respecté pour ce choix qu'est leur ton frère. Approuvé par un examen sous une loupe, de servir Christ d'une manière désintéressée, on détermine sa valeur. On te regardera et on te dira « Waouh ! Tu as renoncé à ta liberté pour ton frère, chapeau !» Et tu seras honoré. 5. 5. Il faut maintenant activer la bonne action. Verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Alors c'est simple maintenant, nous recherchons la paix, l'édification mutuelle. J'examine toutes les libertés en fonction de ça. Est-ce que ma liberté produit la paix ou non ? Est-ce que ma liberté produit l'édification mutuelle ou non ? Si oui, je continue, sinon, j'encule. Verset 20 et 21. Pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures. Donc il réaffirme. Écoute, on a les droits, on est libre, toutes choses sont pures. Tu manges ce que tu veux, ta pomme, tu la manges. D'accord ? Il n'y a pas de problème. Mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Verset 21, il est bien de ne pas manger de viande, ni de boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. On se répète. C'est dommage d'avoir un conflit pour des choses aussi petites et non importantes que de la viande et du vin. Donc il faut activer une bonne action, il faut faire ce qui est juste. 6. Il faut comprendre les deux convictions. Encore regardez ce qu'il dit au verset 22. Cette foi que tu as, donc là il parle au fort, celui qui est libre, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. C'est pas mal. Tu peux bénir le Seigneur que tu es libre. C'est bien. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Ah, je suis libre, non. C'est le même dans ma vie. Mais il dit, mais c'est très bien, si tu n'es pas condamné, c'est libre, la Bible n'est pas très claire sur le bien ou le mal de ces choses, tu es libre. Gloire à Dieu. Verset 23. Et le faible, et celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Oui, mais moi je suis faible, moi j'ai un problème. Ok. Alors mange pas la pomme. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Si tu n'as pas la conviction de liberté, ne viole pas ta conscience, parce que ce sera un péché pour toi. Même si théologiquement ce n'est pas un péché, pour toi ça devient un péché parce que tu violes ta conscience. Donc, nous devons chacun comprendre les deux convictions. Le faible et le fort. Le fort et le faible. Alors, j'aimerais quand même parler d'une chose, parce que j'ai beaucoup réfléchi à ça cette semaine. La différence entre un faible et un légaliste. C'est important, je pense. Un faible, une personne faible, je pense, c'est quelqu'un. C'est un faible biblique, j'ai envie de dire, et qui a une conviction théologique, pas une attitude qui veut casser juste parce qu'il veut casser. Un légaliste a haussé son opinion humaine plus haute que la parole de Dieu, non pas nécessairement par une conviction théologique, mais sans doute par une tradition humaine. Matthieu 15, 6, Jésus en parle, hein, il dit ceci dans Matthieu 15, 6, je vais vous lire. Matthieu 15, 6. Vous annulez, il parle aux pharisiens, ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions hypocrites. Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore et enseigne les préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Voilà, ils ont haussé leur tradition humaine, ils ne se sont même pas posé pourquoi, la question pourquoi, au-delà de la parole de Dieu. Le légaliste sont les gens qui sont souvent ouvertement et régulièrement critiques de tout, qui sont connus pour ce qu'ils sont contre et pas pour leur recherche assidue des Écritures, souvent sont remplis d'orgueil. Ils critiquent pour se rendre importants, pour montrer qu'ils savent mieux que les autres, qu'ils sont souvent jaloux de quelqu'un. Et les personnes qui sont critiques avec des mobiles impurs seront tôt ou tard, avec le temps, dévoilées, perçues comme telles, et se disqualifieront eux-mêmes, se couperont de l'Église eux-mêmes. Non, une personne réellement faible voudra discuter, voudra comprendre, voudra examiner les Écritures, va être humble, va être corrigible, va être enseignable. Et il va aller vers l'effort pour essayer de comprendre, mais explique-moi, comment tu peux te permettre cette liberté ? Moi, je veux comprendre. Je veux être libre comme toi, en fait. Je ne veux pas être sous le joug de ma faiblesse. Reprenons la pomme au restaurant chinois devant le Bouddha. Le faible, il dira, John, je veux vraiment essayer de comprendre ta perspective. J'aimerais tellement pouvoir aussi manger cette pomme offerte à Bouddha avec toi. Mais John, j'y arrive pas, quoi. Je sors du bouddhisme. C'est trop. Aide-moi à comprendre. Montre-moi dans la Bible. Je veux vraiment comprendre. Je veux vraiment, vraiment comprendre. Ça, c'est une belle attitude. Alors moi, j'espère mon attitude. Oh, je suis vraiment désolé. Écoute, écoute, cette pomme, c'est rien. On va en discuter. Tac, moi, je laisse la pomme et on discute. Jusqu'à qu'ils disent, ah ben écoute, allons manger la pomme ensemble. Ça, ce serait bien, vous voyez. Le légaliste, lui, va dire, John, c'est interdit. Pas de discussion possible. J'ai raison. Clac. Bon, j'exagère un tout. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et ça, il leur répond ensuite tout autour de lui. Grande différence entre le légaliste et le faible. Septième manière de maintenir l'unité, il faut soigner l'humilité. Justement, regardez chapitre 15 maintenant, c'est très rapide. Nous qui sommes forts, verset 1, Paul parle de lui-même, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas rechercher ceux qui nous plaisent. Voilà, bah écoutez, en tant que fort, je supporte le faible. Le fort ne va pas chercher ce qui lui plaît en premier. Le fort va apprendre à édifier les faibles. Ça nous rappelle tellement Philippiens 2, n'est-ce pas, où il est dit ceci, « Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Huitième chose, il faut s'inspirer du modèle suprême. Regardez verset 3, chapitre 15, verset 3. « Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. » Mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui l'insultent sont tombés sur moi. Ça devrait être mon attitude. Je suis chrétien. Je ne cherche pas en premier ce qui me plaît à moi. Ça, c'est l'attitude. Alors, j'aimerais conclure avec deux questions. J'essaie d'appliquer à notre situation, parce que tout n'est pas facile. Hein. Je vous donne les gros principes ici. Mais deux cas, j'ai trouvé intéressant. Un, si un faible est vraiment scandalisé par mon comportement de liberté chrétienne, est-ce que j'arrête complètement et de manière permanente cette chose, ou est-ce que je me retiens devant cette personne uniquement? Exemple, si je sais qu'un chrétien dans l'église a de la peine avec la pomme donnée à Bouddha, est-ce que je décide de ne jamais manger la pomme donnée à Bouddha, ou est-ce que je le fais en douce? Voilà la question. Est-ce que j'ai le droit de le faire en privé? Je vous donne un autre exemple assez intéressant. Un chrétien dit, moi je crois que c'est ok d'aller danser au Macumba. Un chrétien pourrait dire ça. Un autre chrétien dit, c'est un scandale que tu dis ça. Comment tu peux te permettre d'aller au Macumba danser? Le chrétien fort, oula, excuse-moi, je suis vraiment désolé, la super attitude, ouais, écoute, là, écoute, voilà, ok, ok. D'accord. Je décide de... Ouais, ça marche pas très bien, ce que je suis en train de dire, parce que j'ai envie de dire qu'il va dire, j'y vais pas, publiquement. D'accord? Non, il va dire, écoute, alors j'y vais pas. Est-ce qu'il a le droit de danser chez lui? Ou est-ce qu'il aurait le droit de danser si, par exemple, il fait une croisière et il a envie de danser avec sa femme sur une croisière? Est-ce que toute la danse est interdite ou juste au Macumba? C'est compliqué, d'accord? Mon opinion. Si une personne est vraiment faible, tu arrêtes ta liberté devant le chrétien vraiment faible. Je pense que tu peux, en privé, continuer. C'est ce que je crois, d'accord? Mais il y a un bémol. Si ce que tu fais en privé devient connu à l'autre et que cela devienne un problème public, alors il serait mieux d'arrêter complètement. Voici une deuxième question. Qu'en est-il des choses qui sont considérées un problème dans un pays mais pas dans un autre? Alors ça nous concerne parce qu'on est une église avec plus de 35 nationalités Et on avait tous notre bagage culturel et chrétien culturel dans l'église ici. D'accord ? Alors, est-ce que l'église du pays hôte, cette église, doit se plier aux coutumes de toutes les cultures représentées dans l'église ? Alors, moi, on m'a dit une chose. Alors, moi, je connais très mal la culture africaine. Vous pouvez, vous qui êtes africain, me confirmer si c'est vrai ou c'est faux. On m'a dit qu'en Afrique, les robes, dans les milieux évangéliques, doivent être en dessous du genou. C'est juste ça ? Vous avez déjà entendu ça ? Ah oui, c'est juste, d'accord. Alors, dans la culture africaine, les genoux sont un problème. Il faut que la robe soit en dessous des genoux. Est-ce que nous, alors, ici à Genève, nous demandons à toutes les femmes de mettre les robes en dessous des genoux ? Compliqué, hein ? Aux États-Unis, le vin est interdit dans beaucoup de milieux évangéliques. Est-ce que nous devons, dans notre culture ici à Genève, interdire le vin dans l'église, mais même à l'extérieur de l'église ? Dans certains milieux roumains, si je ne me trompe pas, la batterie, c'est vraiment une immense mal. Est-ce qu'on devrait alors se soumettre à ces traditions roumaines de ne pas avoir de batterie dans l'église pour les Roumains. Attends, si on fait ça pour les 35 nationalités ici, elle va ressembler à quoi l'autre église le dimanche matin ? Ça va vraiment être intéressant, quoi. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça cette semaine, et je pense que la réponse que la sagesse dit ici, c'est que si certains de ces domaines devenaient un sujet de conflit au niveau de l'église, où certaines cultures veulent, pas imposer, mais disons, apporter leur culture qui n'est peut-être pas partagée à tout le monde, c'est là, je pense, où les anciens doivent intervenir. C'est un des rôles capital des anciens. Aux anciens de l'église du pays hôte, et ça c'est pas facile parce que nos trois anciens de notre église, il y a un Suisse, un Africain et un Américain. Alors déjà entre nous, c'est pas toujours c'est un peu compliqué culturellement. Je dis ça en blaguant, on s'entend très bien, d'accord ? Mais vous voyez, c'est un sujet complexe. Mais je pense qu'aux anciens de l'église du pays hôte de déterminer ce qui est juste ou pas, pour leur église, dans leur culture. Bien sûr, s'il y avait un conflit, d'habitude, ces choses n'ont pas besoin d'être discutées, d'accord ? Mais si vraiment il y avait un conflit, surtout sur des sujets, je dirais, de liberté chrétienne, à eux de trancher et de communiquer cela pour que chacun puisse ensuite décider pour lui s'il peut vivre avec cela dans cette église locale. Voilà une des utilités aussi du règlement intérieur et des statuts d'une église, pour essayer de déterminer, la conduite de l'Église dans notre culture, avec toute cette diversité de cultures. Alors, et là, on est rentré dans un gros morceau. C'est intéressant, vous ne trouvez pas ? La Bible est tellement pratique, mes amis. Je pense qu'il ressort ici, et là, on va maintenant transitionner à la Sainte-Seine. Je pense que ce qui ressort ici, c'est quoi ? Pourquoi on est là ? Pourquoi on est là ? Pourquoi les gens, on est tous ici dans cette église ? Pourquoi est-ce qu'on adore le nom de Jésus-Christ ensemble ? Eh bien parce que Christ nous a sauvés. Christ s'est donné pour nous. Christ a pardonné nos péchés, nous a donné la vie éternelle. Et aujourd'hui, verset 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Verset 3 du chapitre 15, car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui l'insultent sont tombés sur moi. Christ nous a servi. Christ a donné sa vie pour nous. Il n'a pas fait ce que lui voulait. Bien sûr, il aurait pu décider de ne pas aller à la croix. C'est-à-dire, humainement, il aurait pu dire, non, je ne veux pas aller à la croix. Mais il l'a fait parce qu'il nous a aimés. Voilà l'attitude que nous devrions avoir vis-à-vis l'un de l'autre. Nous sommes honorés de Dieu. On va s'incliner, d'accord, pour nous préparer pour la Sainte-Seine. Écoutez Philippiens 2, à partir du verset 5. Paul écrit, ayez-vous les sentiments qui existaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que ta langue confesse Jésus-Christ comme Seigneur? Est-ce que tu peux affirmer aujourd'hui, oui, Jésus-Christ est mon Seigneur, il m'a sauvé, il est en moi. Il a été mon sacrifice. Il a pardonné mon péché. Christ est mon roi, mon alpha, mon oméga. Il est mon Seigneur, mon maître.